I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ça ne vous paraît pas gênant de dépendre entièrement d'un homme?
Mais non, on apporte sa paye. Mais moi, je lui apporte autre chose.
Il faut gagner de l'argent. C'est pas un but, mais c'est vraiment un moyen.
Est-ce que vous avez envie d'être riche?
Pourquoi? Je vois pas pourquoi j'aurais envie d'être riche.
Combien tu gagnes? Avez-vous déjà posé cette question à votre meilleur ami? Je prends le pari que non, car le sujet est encore largement tabou dans notre pays. Ce qui nous dessert profondément, nous les femmes. On se définit rarement par notre fiche de paye, et on se vante encore moins de réussir à la gonfler. Revers de la médaille, nous manquons de références et d'expérience pour nous évaluer. Et nous n'osons pas réclamer notre dû, à moins d'être au pied du mur. J'ai appris à me décomplexer sur ce sujet grâce à une amie, maman solo, qui, angoissée par ses fins de mois, cumulait les missions tout en refusant systématiquement de travailler pour des clopinettes. Un bon réflexe. Mais pour la plupart d'entre nous, quand il s'agit d'aborder la question du salaire, de la négociation salariale et plus largement de la valeur de notre travail, c'est le grand vertige. Je suis Valérie Lyon et vous écoutez le deuxième épisode d'Osons l'oseille.
C'est un peu la panique, ouais. Demander de l'argent, enfin, c'est quelque chose que je trouve hyper compliqué.
Céline a 48 ans et vit à Paris. Elle vient tout juste de retrouver un job après pas loin de 2 ans de chômage. Lorsque nous l'avons interrogée, elle était encore en recherche d'emploi. La question du salaire revenait donc comme un boulet à chaque entretien d'embauche.
C'est ma question cauchemar, donc je sais qu'on va me la poser en me disant alors, vos prétentions salariales. Donc là, ça me met dans un état de panique en me disant mais là, si je demande trop, ça n'ira pas et je ne sais pas. Et j'ai beaucoup travaillé dans les achats, donc demander de l'argent, c'est un peu mon métier. Enfin, demander quelque chose à un fournisseur, savoir quel prix demander, savoir demander plus, c'est quelque chose qui est très facile pour moi. Mais mettre un prix sur mon travail et demander pour moi, c'est mettre un prix sur ce qu'on est. Quand je négocie avec un fournisseur, c'est ultra rationnel, c'est ultra préparé. J'ai des arguments, je sais combien, je sais ce que je veux, je sais argumenter pourquoi, je sais comparer les prix, je sais avoir tous ces éléments de comparaison. Et je peux le faire, très bien. Et je négocie des conditions supérieures chaque année. Et à chaque fois que c'est pour moi, c'est beaucoup moins rationnel. J'arrive beaucoup moins à détacher le côté un peu émotionnel et pour dire, bah, très bien, j'ai X années d'expérience, je vaux ça, ça ne vaut pas moins. C'est beaucoup plus difficile.
Céline pointe un paradoxe. Négocier pour les autres, en l'occurrence l'entreprise pour laquelle on travaille, ce n'est pas si dur. Céline sait faire, avec sang-froid. Mais négocier pour elle-même, c'est une autre paire de manches. Cela devient émotionnel. Le sujet de l'argent s'installe alors dans un non-dit, comme si c'était sale. Pour Céline, demander de l'argent, négocier son salaire, c'est mettre un prix sur ce qu'on est. Bref, d'une certaine façon, cela revient à se vendre, et cette idée la met mal à l'aise. Or, demander de l'argent, ce n'est pas mettre un prix sur ce que l'on est, mais sur ce que l'on fait, sur ses compétences. Et pour cela, il existe des indicateurs, des données tangibles, des chiffres, des rapports, des objectifs réalisés qu'il faut savoir mettre en avant pour appuyer sa demande. C'est ce que nous explique Morgane Dion, spécialiste de la négociation salariale. Elle a cofondé la plateforme Plan Cash qui accompagne les femmes vers leur indépendance financière.
Une négociation, c'est très rationnel. C'est pas émotionnel. Voilà, il faut avoir des arguments qui sont méthodiques, il faut montrer l'évolution avec des chiffres. Et donc, le fait de se préparer joue énormément sur cette confiance. Parce que c'est sûr que si vous êtes préparé, si vous avez répété vos scénarios, que vous avez les outils, vous avez comparé les salaires, vous avez parlé avec des gens, voilà, vous êtes au taquet, bah forcément, votre confiance, elle augmente. Commencez par peut-être tout simplement rejoindre des formations comme ça en e-learning, et puis ensuite poser des questions, rejoindre des groupes de parents. Et petit à petit, le fait d'en parler et d'avoir les bons outils, ça joue énormément sur le mental et sur la confiance qu'on peut avoir en soi.
Ce que dit Morgane Dion, c'est qu'en réalité, demander de l'argent devrait être quelque chose de très factuel, voire de mathématique. J'ai fait telle chose pour l'entreprise, je rapporte tant, donc je vaux tant. Pourtant, les femmes associent cette démarche à quelque chose de très personnel, voire d'intime, et ça les bloque. Comme si elles devaient se mettre à nu.
Pourquoi est-ce qu'on n'associe pas les femmes à l'argent et pourquoi est-ce qu'en tant que femme, on ne se projette pas dans l'argent? C'est parce que l'argent, c'est quelque chose d'assez scientifique. C'est des maths, c'est des chiffres. Donc, c'est scientifique, c'est rationnel. Il y a un phénomène qu'on s'appelle le mythe de la rationalité. Le mythe de la rationalité, il présuppose que les femmes ne sont pas rationnelles, que les femmes sont émotionnelles. Et donc, si les femmes sont émotionnelles, mais que l'argent, lui, il est rationnel, alors les femmes ne sont pas faites pour gérer l'argent.
Ce mythe de la rationalité n'est évidemment qu'un mythe. Les femmes sont tout à fait à même de rationaliser leur rapport à l'argent. Le problème, c'est qu'elles ne s'en sentent pas capables. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on leur a enseigné le contraire depuis toujours.
Nous, on a tout au cours de notre enfance des images qui nous renvoient vers les femmes sont dépensières, elles ne savent pas gérer les finances, elles perdent de l'argent, etc. Les magazines destinés aux femmes, lorsqu'ils parlent d'argent aux femmes, ils vont majoritairement leur parler de comment ne pas perdre d'argent, comment faire des économies, comment ne pas être dépensière, alors que les magazines qui sont destinés aux hommes, eux vont parler aux hommes en leur parlant de la nouvelle app qui est à la mode pour faire de l'investissement en bourse, de crypto-monnaie, de rentabilité, de performance. Donc en fait, on a tout autour de nous deux discours différents qui vont pénaliser les femmes lorsqu'il va s'agir de parler de chiffres, de poser des questions et puis de se lancer aussi tout simplement. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on aboutit à 59% des hommes qui demandent une négociation salariale sur leur premier emploi contre seulement 34% des femmes.
Nous sommes donc face à un système qui entretient les femmes dans des stéréotypes dès leur plus jeune âge. Mais nous allons le voir, les employeurs aussi véhiculent des préjugés.
Une femme qui négocie, elle est 30% plus susceptible de se voir qualifiée d'autoritaire, elle en veut trop, etc., vis-à-vis d'un homme. On a plein d'études qui mettent en posture des simulations des hommes et des femmes dans la posture d'employeur. Et c'est avéré que lorsque il et elle, parce qu'en tant qu'employeur, les femmes sont tout aussi biaisées, mais lorsqu'il et elle sont face à une femme qui négocie son salaire, ils ont moins envie de travailler avec elle derrière. Pourquoi ? Parce qu'on n'attend pas les femmes sur ce terrain-là. On ne s'attend pas à ce que les femmes négocient, tout simplement parce que, on a plutôt cette image, la femme est censée être docile. Alors évidemment, je caricature, on a tous ces biais. Alors que l'homme qui négocie, c'est quelqu'un qui est combatif. On l'attend sur ce terrain-là. Et donc les femmes qui négocient, ça crée une forme d'inconfort inconscient. Et donc un petit peu par réflexe de protection, on va se braquer et la plupart du temps sans s'en rendre compte. On ne s'en rend pas du tout compte.
On comprend bien que demander de l'argent représente un effort pour les femmes, à cause de leur éducation et de leur socialisation, alors que cela devrait être une démarche légitime et surtout rationnelle, comme c'est le cas en général pour les hommes. Cela a des conséquences très concrètes sur la vie des femmes et sur leur travail. Première de ces conséquences, une grande partie d'entre nous se retrouve prisonnière du fameux syndrome de l'imposteur.
Je pense qu'on n'a pas du tout été éduqué à demander. On est éduqué à bien faire, à être poli, à être gentil, à être bon élève, mais pas forcément à demander. Et du coup, on ne demande ni au début, donc premier salaire et quand on est recruté dans une boîte, ni en cours de parcours, parce qu'on doit toujours se poser la question « est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je mérite ? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui méritent plus ?» Je le remarque pas mal. Au niveau des postes à responsabilité, par exemple, je vois que les questions se posent beaucoup plus sur « est-ce que je mérite ? Oh là là, mais c'est un énorme salaire. Est-ce que vraiment je mérite ce salaire-là ?» Mais ce que j'entends rarement dire un mec, en fait. Il est souvent super content de montrer qu'il gagne bien sa vie ou qu'il a négocié un super truc. Nous, on est beaucoup plus dans... Moi, j'ai des amis qui gagnent bien leur vie, qui me disent « Oh non, mais je gagne super bien ma vie par rapport à ce que je fais. Enfin, franchement, je suis super bien payée pour ce que je fais. » J'ai rarement entendu un mec me dire la même chose.
On pourrait aussi parler du syndrome de la bonne élève. La bonne élève réussit tout et ne pose aucun problème, donc elle ne réclame rien, car réclamer, c'est déranger, voire entrer dans un rapport de force.
Il y a effectivement cette idée que c'est jamais assez, qu'en fait, il faut toujours être plus parfaite et que tant qu'on n'est pas parfaite, eh bien, finalement, on ne mérite pas forcément d'avoir une augmentation ou de demander plus, etc. Donc, je pense qu'effectivement, c'est vrai, il y a un vrai travail à faire sur nous-mêmes, comprendre finalement que faire bien et faire parfaitement, ce n'est pas la même chose et que faire bien, ça suffit largement. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus, identifier aussi quel type de syndrome de l'imposteur on a, parce qu'il y a plusieurs manières de le vivre. Il y a des personnes qui vont plutôt le vivre de manière très solitaire, des personnes qui vont être très compétitives, etc.
La principale conséquence de cette difficulté pour les femmes à réclamer leur dû, c'est bien sûr une conséquence économique. Ce schéma de pensée a des effets directs sur leurs revenus et leurs comptes en banque. Comme nous le dit Morgane Dion, ça leur coûte très cher.
Un chiffre que j'aime beaucoup mettre en avant parce que, déjà parce qu'il est, il est stupéfiant et parce qu'il parle beaucoup. Donc c'est une étude, donc il y a plusieurs études, hein, mais celle-ci en particulier qui a été menée par une chercheuse qui s'appelle Linda Babcock, qui est une chercheuse américaine, qui a pris comme base le fait que vous seriez rentré dans votre vie professionnelle sur un salaire à 35K au lieu de 40 que vous auriez négocié. Donc on peut dire 5K de plus à l'année, quand on rapporte au mois, finalement, ça ne fait pas non plus une si grosse différence, etc. La réalité, c'est que ces 5K, en fait, qui vous manquent, si vous additionnez les augmentations que vous allez avoir, les primes en pourcentage, vous allez probablement, même si ce n'est pas du tout une bonne chose, mais vous allez probablement utiliser ce premier salaire et les salaires suivants comme base pour vos nouvelles négociations, pour des nouveaux emplois. Et en fait, quand on additionne tout ça au cours d'une carrière, on arrive à 1 million de dollars manqués parce que voilà, tout simplement, on a loupé ces 5 premiers cas, et puis bah, finalement, bah, peut-être les 2 cas suivants, puis le cas suivant, et les pourcentages, etc. Et ça, je ne vous parle même pas de la retraite, c'est juste que vous avez manqué sur votre carrière. Mais il ne faut pas oublier que, en tout cas dans notre système français, la retraite est basée sur une moyenne d'une partie de vos salaires, et donc du coup, bah, c'est aussi votre retraite qui diminue fortement lorsque vous quittez le monde de l'emploi.
Imaginez le manque à gagner si vous passez votre carrière sans jamais demander une augmentation de salaire. Eh bien, figurez-vous que c'est l'histoire de Florence, qui habite à Bayonne. Enfin, plus précisément, c'était son histoire, car au bout de 35 ans dans la même entreprise, sans rien oser demander, elle a finalement sauté le pas pour la première fois, à 54 ans.
J'arrive dans la salle, je m'installe. Donc déjà, je les remercie de me recevoir. Et je fais le bilan avec mon N+2 de toute l'année compliquée passée. Donc, je lui demande, est-ce que tu as été content des missions que tu m'as confiées et est-ce que tu es satisfait? Est-ce que je les ai menées à bout? Est-ce que c'est ça que tu attendais de moi? Donc, il me dit que oui, que franchement, il n'a rien à me reprocher, qu'il est très content. Donc, en fait, j'ai profité de ça pour dire, je te remercie aussi de la prime exceptionnelle et j'en profite pour te demander, est-ce qu'il est possible de me l'intégrer entièrement dans mon salaire?
Florence travaille dans cette entreprise du BTP depuis l'âge de 21 ans. C'était d'abord une entreprise familiale qui a ensuite été rachetée par un grand groupe. Florence a commencé en bas de l'échelle, puis petit à petit elle a évolué jusqu'à être responsable de gestion administrative. Mais malgré toutes ces années, à l'exception des NAO, les négociations annuelles obligatoires, Florence n'a jamais bénéficié d'évolution salariale. Pour la simple raison qu'elle n'en a jamais demandé. Récemment, des bouleversements au sein de l'entreprise lui ont fait prendre des responsabilités supplémentaires le temps qu'un nouveau directeur soit recruté. Pour avoir assuré cet intérim, elle a bénéficié d'une prime exceptionnelle. Elle en a alors profité pour demander que cette prime soit intégrée à son salaire de façon pérenne, une première pour elle.
Au moment où je l'ai dit, je me dis « Waouh, je l'ai dit !» Mais le fait que j'ai réussi à lui sortir la phrase « Je voudrais bien, s'il te plaît, que tu me l'intègres dans le salaire », là je me suis dit « Voilà ». Effectivement, j'étais prête dans ma tête. Et en fait, ça, c'est sorti sans agressivité. C'est sorti sur le même ton que la discussion. Donc là, oui, j'étais vraiment très contente. C'est une victoire. C'est une victoire parce que, voilà, quand je suis sortie, je me suis dit, mais quel soulagement. Et voilà, j'ai été libérée. Ouais, voilà.
Si Florence savoure autant cette victoire, c'est que formuler cette demande pourtant simple et légitime relevait pour elle d'un exploit. Mais que s'est-il passé pendant toutes ces années ? Pourquoi avoir attendu si longtemps pour demander d'être rémunérée à la hauteur de son investissement dans l'entreprise ?
on l'a vu avec Céline, il y a cette relation complexe à l'argent qui provient de notre éducation. Florence n'y a pas échappé, mais peut-être aussi du fait de son âge.
Dans ma génération, on n'a pas été habitué à demander quoi que ce soit, donc c'est très compliqué. Dans ma génération, c'est tabou. Nous, avec mes collègues, on ne parle jamais de salaire, on ne sait pas combien on gagne chacun. Avec mes enfants, ça n'allait pas parce que moi, ma fille, elle me dit « Mais non, mais maman, elle me dit, entre nous, on sait exactement combien on gagne, il n'y a pas de tabou. Mais nous, on fait partie d'une génération où nos parents ne nous parlaient pas d'argent. Le but numéro un, c'était gagner sa vie, quel que soit le métier qu'on fait, et pas parler d'argent. » En fait, je pense qu'on fait partie de cette génération où le travail passait avant tout et qu'en fait, on n'osait pas demander parce qu'on ne nous a pas appris à demander. On ne connaît pas l'échelle des salaires, donc on ne sait pas se positionner. Et puis c'est surtout qu'on ne sait pas se vendre. Enfin, moi, je n'ai jamais appris à me vendre. Moi, j'ai fait carrière dans cette entreprise, même si elle a été rachetée par un groupe. Donc, j'ai 35 ans de boîte. Même si je savais que voilà, je n'avais pas un poste clé, mais quand même un peu, non, je ne savais pas me vendre. Et j'arrivais pas à me positionner, à demander. Sauf qu'en fait, je m'aperçois avec l'âge, mieux vaut tard que jamais, qu'en fait, non, la reconnaissance, il faut demander. Même si les gens en face sont satisfaits, jamais ils ne donneront d'eux-mêmes. Il faut demander, il faut oser demander.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Florence est la preuve que même à 54 ans, c'est possible. Il faut oser demander, dit-elle, et cela vaut quel que soit son âge. Pour elle, le fait de franchir enfin ce pas, c'est aussi une façon de donner l'exemple à ses enfants et de leur prouver, ainsi qu'à elle-même, qu'elle a encore des ressources pour s'affirmer en tant que femme.
J'étais hyper contente parce que je me dis comment pendant tant d'années j'ai pu ne rien demander. Et en fait, je me suis dit, bon, mais voilà, maintenant, à 50 ans, oui, j'ose demander des choses que je ne demandais pas à 20 ans. Et je suis très, très satisfaite. Et même vis-à-vis de mes enfants, je peux leur montrer que, ben voilà, à 50 ans, je ne suis pas finie. En fait, d'avoir pu franchir le pas, eh ben moi, je suis fière pour mes enfants parce que mes enfants aussi, ils vont arriver sur le marché du travail. Et je veux qu'ils soient capables aussi de demander. Si moi, je ne leur montre pas que même à 50 ans, j'ai pu demander, voilà, je ne serai pas légitime de les encourager et tout ça. Donc, je veux qu'ils croient en eux, puisque ben, moi aussi, à 50 ans, ben, finalement, oui, je crois en moi. Donc, je veux continuer à m'épanouir. Je veux être là pour leur montrer que c'est possible.
Pour Florence, comme pour Morgane Dion, les femmes actives d'aujourd'hui portent en quelque sorte une responsabilité envers les jeunes générations. Plus elles montreront l'exemple, plus elles offriront des modèles auxquels s'identifier.
Oser faire le premier pas. Vous avez plus d'expérience aussi que des femmes plus jeunes, et donc vous avez plus de compétences. Vous êtes des modèles, en fait. Si, je sais pas, votre fille, votre petite fille entre sur le marché du travail, qu'elle vous a jamais vu faire ce pas-là, forcément, ça va être plus difficile pour elle, en fait, de se projeter. Donc, je veux pas dire que vous avez une responsabilité, mais en tout cas, vous avez ce pouvoir-là. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise de le faire pour vous, faites ce qu'on appelle, ça s'appelle l'orientation communale. Faites-le pour les autres. Nous, les femmes, on négocie et on demande plus lorsqu'on se projette à le faire pour d'autres personnes, pour des amis, pour des associations, hein, tout ça, ça a été prouvé. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, vous dites non, finalement, moi, négocier, je ne sais pas trop. En fait, ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres femmes. Faites-le pour notre valeur à nous sur le marché du travail, pour notre valeur dans la société et pour le pouvoir que ça représente pour nous.
Mais alors, une fois que l'on est convaincu de sa légitimité et que l'on a dépassé ses peurs irrationnelles, comment fait-on concrètement pour demander, voire exiger de l'argent ? Morgane Dion esquissait déjà une réponse. D'abord, il faut se préparer. Rassembler tous les éléments factuels qui viennent appuyer notre demande. Préparer son discours et ses arguments. Mais si l'on veut aller encore plus loin, il faut aussi accepter l'idée de lever le tabou de l'argent. Pour cela, Morgan Dion prône le dialogue entre pairs et la transparence des salaires. En d'autres termes, si l'on en parlait plus facilement entre nous, on saurait un peu mieux ce que l'on vaut et ce que l'on est en droit de demander.
Ça, c'est hyper important. Il faut parler d'argent avec ses amis, avec ses collègues, avec des gens qu'on ne connaît pas. Il faut en fait briser cette espèce de silence qui nous entoure pour deux choses. La première, c'est que déjà, ça va jouer sur cette libération de la parole, mais aussi parce que ça nous permet de savoir combien gagnent les autres. Et en fait, on a besoin de savoir combien gagnent les autres pour savoir comment est-ce qu'on se situe. Et pas simplement combien gagnent les femmes, parce qu'en tant que femme, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se tourner vers d'autres femmes pour savoir comment elles font, etc. Mais en fait, les hommes sont mieux payés que les femmes. Et donc du coup, c'est eux qu'il faut interroger. Il faut savoir combien ils gagnent, il faut savoir de quels bénéfices ils disposent. Est-ce qu'ils ont des parts de capital dans la boîte? Est-ce qu'ils ont, je ne sais pas, des primes? De combien est cette prime? Quels sont les critères, etc. Donc il faut absolument avoir cette conversation et il faut l'avoir avec les hommes.
En clair, si vous savez combien gagne votre meilleur ami, essayez donc de connaître le salaire de son compagnon. Il faut avoir des références. Et une fois qu'on a sauté le pas, qu'on a osé parler salaire avec son entourage et qu'on a osé demander une augmentation, c'est comme entraîner un muscle, ça devient plus facile de recommencer. Ainsi, Florence a levé une barrière. Si elle a osé négocier aujourd'hui, elle osera le refaire demain.
Je pense que l'année prochaine, à l'entretien individuel, comme en plus mon directeur est un jeune directeur qui a d'autres visions que mon ancien directeur, avec lui, l'argent n'est pas tabou, donc effectivement, je pense que je serai à l'aise pour lui demander. Je pense que je serai demandé plus facilement, parce que déjà, c'est quelqu'un qui est plus ouvert. Et je pense que cette nouvelle génération, ils sont plus aptes à entendre plein de choses, parce qu'eux-mêmes, ils en ont déjà des prétentions salariales, des prétentions de carrière. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, avec mon expérience, j'aurais honte de demander, oui. Ça sera plus facile dans la mesure où je l'ai fait une fois. C'est marqué maintenant dans mon entretien individuel. Donc maintenant, quand je demanderai, ils seront plus surpris.
Mais il ne s'agit pas seulement d'oser demander pour obtenir une augmentation et lutter contre les inégalités salariales. Le problème est bien plus profond et les biais existent aussi du côté des employeurs. Pas question donc de culpabiliser les femmes. Soyons conscientes que l'argent est un lieu du combat pour l'égalité homme-femme et qu'il faut s'en emparer.
Moi, je suis persuadée que avec toutes les nouvelles révolutions féministes qu'il y a en ce moment, la révolution financière et économique va en faire partie. Et j'ai envie de dire, ça peut sembler futile quand on compare à d'autres types de révolutions, par exemple la révolution sexuelle ou la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, etc. Mais en fait, il ne faut pas oublier que l'argent, ça reste le pouvoir. Les gens qui ont dit que l'argent ne fait pas le bonheur, ceux qui sont déjà pétés de thunes, à mon avis, c'est certain que ça n'achète pas tout. Mais enfin, lorsque vous avez de l'argent pour vivre confortablement, pour vous échapper d'une situation qui peut être problématique, par exemple, j'en sais rien, vous êtes dans un couple avec un homme qui est violent, qui vous bat ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes coincé. C'est aussi le pouvoir de se construire un avenir financier, de construire un avenir financier pour, sa famille, ses enfants. Mais c'est aussi le pouvoir de faire ce que vous voulez. Enfin, c'est tout bête quand je dis ça, mais c'est le pouvoir d'investir l'argent dans ce que vous voulez, de partir en vacances. Mais c'est aussi le pouvoir d'avoir une posture dans la société. C'est le pouvoir d'accéder à certaines sphères médiatiques, à certaines sphères politiques, économiques. Et en fait, en tant que collectif, le fait de gagner en indépendance financière, ça nous aide aussi à reprendre une place à égalité dans la société. J'entends aussi beaucoup de femmes qui me disent « Oui, mais bon, moi, le matériel, bon, j'ai pas forcément besoin de gagner plus d'argent parce que j'ai déjà tout ce que je veux. » Très bien, mais si tu gagnais plus d'argent pour le reverser à des associations? Et si tu gagnais plus d'argent, je sais pas, pour aider ta mère, ton père, tes grands-parents, tes amis. En fait, fais-en ce que tu veux après de cet argent-là. Mais si tu le mérites, pourquoi tu le demandes pas?
Céline a retrouvé un emploi dans son ancienne entreprise, un CDD avec moins de responsabilités qu'avant, mais elle a obtenu de garder le même salaire. Florence s'est rendue compte que demander une augmentation, ce n'est pas si terrible. Elle est même prête à recommencer l'an prochain. Bien sûr, il y a toujours le risque d'essuyer un refus. Mais elle a réalisé que ne rien demander, c'est ne rien obtenir. Avant tout, il faut penser aux raisons pour lesquelles on veut de l'argent. Parce que notre travail, nos compétences, notre expérience, tout cela a de la valeur, c'est objectif. Il ne s'agit pas de plaire ou de ne pas plaire. Il s'agit de faire reconnaître ce qu'on apporte à l'entreprise. Négocier son salaire, c'est la première pierre de l'indépendance financière. Et même s'il n'est jamais trop tard, c'est une habitude à prendre dès le début de sa carrière. Allez, je vous donne un truc qu'une amie m'a confié. Demandez toujours plus que ce que vous imaginez être le juste montant. Car même quand on se valorise, on a tendance à se sous-estimer. Et puis l'argent, nous le verrons dans le prochain épisode, ce n'est pas seulement utile à notre quotidien. Cela permet également de faire des projets. Savoir l'épargner est crucial. Sauf que là aussi, les femmes ont du chemin à parcourir pour devenir l'égale des hommes. Je suis Valérie Lyon, journaliste chez Bayard Presse, et vous venez d'écouter le deuxième épisode d'Osons l'oseille, un podcast de Vive, la newsletter qui chaque semaine explore la relation des femmes à l'argent et à l'économie. Osons l'oseille est produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Camille Maestracci a participé à l'écriture et à la production de cet épisode. La musique a été composée par Jérôme Petit, qui assure également la réalisation et le mix de cette série. Agathe Welcome est la chargée de production d'Osons l'oseille. Nathalie Rousseau lui donne un écho sur les réseaux sociaux. Ce podcast a également vu le jour grâce au soutien de nos partenaires, Disons Demain, L'Oréal et Orange, engagés à nos côtés pour le développement du média Vive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires et à vous abonner à notre newsletter Vive sur vivesmedia.fr. À très vite pour notre troisième épisode Osons épargner.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6€ sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.